On est dimanche, il est 20h, vous êtes toujours sur Radio Campus Paris, sur le 93.9 FM et en streaming. Et tout de suite, c'est Museum Side, votre émission de critique d'exposition. En avant pour un tour du côté des musées.
On commence avec le mot du conte de l'autre amant. Bon, comme la rencontre fortuite d'une machine à coudre et d'un parapluie sur une table de dissection.
Museum Side.
Vous avez tenté de faire quelque chose qui n'est en aucune façon un palais, en aucune façon un lieu de décor, et disons-le tout de suite, en aucune façon un musée.
Museum Side, c'est l'émission de critique d'art de Radio Campus Paris.
Vassily Kandinsky est exposé au troisième étage à côté de Malevitch, comme il se doit.
Ceci n'est pas un musée.
Ah, donc si je trouve Malevitch, pour Kandinsky, je brûle.
On parlera d'exposition, d'art.
Ce qui donne un art à une société, dit André Gide, c'est le besoin qu'elle en a, et non une compréhension plus ou moins grande.
On va se balader dans Paris, de musée en musée, toujours en compagnie d'un invité. Et ce soir, c'est déjà le dernier numéro de la saison. On a beaucoup aimé vous parler d'exposition, recevoir nos invités et débattre autour d'un tableau, un courant artistique ou le propos peu clair d'une exposition, ça arrive parfois. On espère que ça vous a plu aussi et que vous nous avez suivis avec plaisir tout au long de l'année. Et alors pour cette dernière, on va parler des expositions de l'été avant nous-mêmes de partir en vacances. On ne pouvait pas vous laisser démunis sur vos lieux de villégiature. Alors pas de panique pour les stagiaires, apprentis, CDD tout frais ou tout simplement saisonniers coincés sur Paris tout l'été. Nous avons aussi sélectionné les grosses expositions parisiennes qui sauront vous distraire. Vous savez, quand il fera 40 degrés et que vous chercherez un peu de fraîcheur auprès de beaux tableaux. Mais avant de vous présenter notre sélection, nous parlons d'une petite exposition, car elle appelle « L'art est une fête », présentée en ce moment au Musée d'art moderne de la ville de Paris jusqu'au 20 août et qui vaut le détour. Ce soir, nous recevons Shohakat Kazarian, sa commissaire, qui nous expliquera le contenu de la donation de 21 peintures et sculptures de la Carrel Appel Foundation. Mais pour commencer, ce n'est pas parce que c'est la dernière que l'on va oublier les chroniques. Marion, c'est ta dernière chronique ce soir parce que l'année prochaine, tu voleras vers de nouveaux horizons. Tu vas nous manquer. Qu'est-ce que tu as choisi du coup de nous faire visiter ?
Bonsoir Florence, Diorama au Palais de Tokyo.
Marie-Hélène, tu as choisi une exposition au Centre Pompidou pour ta chronique photo.
Oui, tout à fait. On va aller voir l'œuvre de Walker Evans pour sa grande rétrospective.
Et Charlotte, on retrouvera ta sélection d'expositions de l'été dans la deuxième partie. Bonsoir Charlotte.
Bonsoir Florence.
Et Agathe, avant de retrouver Shohakat Kazarian, où nous emmènes-tu ce soir pour ta chronique et pourquoi pas ?
Eh bien, je vais vous emmener dans ce si charmant petit musée qu'est le musée Carnavalet Histoire de Paris. Alors, le musée Carnavalet, vous le connaissez certainement, il se trouve rue de Sévigné, à deux pas de la place des Vosges, justement parce que Madame de Sévigné a écrit une des grandes parties de ses lettres à sa fille, et il regroupe des collections qui vont de la pirogue néolithique retrouvée sur les chantiers de la BNF, donc dans les années 80, au XXe siècle, et vous y trouverez beaucoup de collections différentes, très éclectiques et qui, à mon avis, plairont à tout le monde. Par exemple, la collection d'enseignes, on compte plus de 200 pièces d'époques assez diverses et variées. La collection de photographies, moins bien connue, parce qu'elle est évidemment conservée, pour des raisons de conservation, à l'intérieur du musée. Et sinon, vous avez la plus grande collection de la Révolution française qui se trouve dans les collections publiques, donc très intéressante à aller voir. Je vous invite aussi à demander si l'hôtel particulier Le Pelletier est ouvert, où se trouve en fait la reconstitution de la boutique du bijoutier Fouquet, qui a été dessinée intégralement par Mucha, Alphonse Mucha, donc avec des pièces très belles, des présentoirs à la cheminée 1900. Et vous trouverez aussi un très beau salon, qui était le salon de la famille Wendel, qui est reconstitué là-bas. Enfin, pour ceux qui aiment la littérature, il y a trois chambres d'écrivains qui ont été reconstituées. Celle de Proust, où il écrit, n'est-ce pas, très souvent dans son lit, très sobre, celle plus colorée d'Anna de Noailles, et enfin celle du poète Paul Léoto, sans ses chats. Vous avez la possibilité, si vous êtes copiste professionnel, amateur ou même élève d'une école d'art, d'y travailler, d'y copier. Donc, je vous invite à y aller, sachant que tous les musées de la ville de Paris sont gratuits pour aller voir leur collection permanente.
On connaît le néerlandais car elle appelle principalement parce qu'il est l'un des membres fondateurs du groupe Cobra. Cobra pour Copenhague, Bruxelles et Amsterdam, les acronymes des villes européennes d'où provenaient les membres de ce mouvement. Créé à Paris en 1948 et dissous seulement 3 ans après, en 1951, ce groupe européen donc, parmi lequel on comptait notamment Asger Jorn ou Pierre Alechinski, voulait se détacher des académismes de l'époque comme l'art abstrait, qu'il jugeait trop rigide, pour prôner un art plus spontané avec des pratiques inspirées du primitivisme et de l'art brut. D'ailleurs, ils sont contemporains de la Compagnie de l'art brut fondée par Dubuffet à la même époque. Mais finalement, cette période a été très courte dans la vie de Karel Appel. Il voyage beaucoup et s'installe à Paris définitivement en 1950, où il est soutenu par des critiques comme Michel Ragon ou Michel Tapier. Son style évolue vers l'expressionnisme, avec une gestuelle très marquée. Donc, le Musée d'Art Moderne de Paris propose justement de découvrir le parcours artistique varié de Karel Appel dans une très belle exposition jusqu'au 20 août, à l'occasion de la donation de 21 peintures et sculptures de la Karel Appel Foundation. La dernière exposition qui lui a été consacrée date des années 80 dans ce même musée, et nous avons le plaisir d'avoir comme invitée ce soir la commissaire de cette exposition, Shohrakat Kazarian. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors, l'art est une fête, et le sous-titre de l'exposition, c'est une phrase prononcée par Karel Appel. Si je ne me trompe pas, qu'est-ce que cela révèle de lui et de sa pratique artistique? Pourquoi avoir voulu mettre cette phrase en avant?
En mettant cette phrase en avant, c'était aussi une façon d'insister sur un des aspects de sa peinture qui commence vraiment dans l'après-guerre, donc qui est un moment à la fois heureux puisque c'est la fin de la guerre, enfin, mais en même temps qui en subit les conséquences. Donc c'est vrai qu'à ce moment-là se développe une nouvelle pratique, que ce soit en Europe, aux États-Unis ou au Japon, donc dans des territoires aussi plus loin du centre du conflit, enfin au Japon un peu moins quand même, mais disons, et il y a aussi une nouvelle vague expressionniste plutôt remontée qui peut se mettre en place. Et la différence, c'est que Appel avait, disons que c'est une approche un peu différente, c'est une peinture à la fois très positive. Je n'aime pas forcément le terme de joyeux, mais disons plus, oui, positif, vitaliste, en fait, qui est vraiment une célébration de la vie. Et pour revenir à la phrase de manière plus précise, ça a été un peu repris en partie d'un entretien réalisé avec Karel Appel, qui est, disons, un cobra assez atypique, puisque, contrairement aux autres, il se méfie beaucoup de la politique et de toutes les idéologies, de tous les ismes, comme il l'appelle, et dit que l'art doit être indépendant et partir plus d'une nécessité intérieure. Et il disait qu'en fait, il envisageait l'art comme une façon de faire de notre passage sur Terre une fête. Et c'est aussi une idée d'autant plus intéressante que lui-même se contredit, puisque beaucoup d'œuvres portent aussi une marque très tragique, que ce soit au début des années 60, lorsque, en très peu de temps, il perd à la fois sa compagne, sa galeriste et sa mère, donc il était trois femmes.
Oui, je me demandais si justement il y avait quelque chose dans sa vie personnelle qui faisait qu'il avait fait des œuvres si sombres dans cette période-là.
Je pense qu'il y a une partie biographique, mais aussi une partie à la fois liée à ces événements, mais aussi plus personnelle en tant qu'artiste, puisque il arrive à la fin d'un cycle du grand appel gestuel expressionniste, et on voit d'ailleurs que son style après change beaucoup. Puis il y a aussi, au début des années 80, il y a aussi des œuvres très dramatiques, qui sont des œuvres qu'il réalise à New York. Bon, c'est vrai que le New York des années 80, notamment dans certains quartiers, c'est aussi un New York très sombre. D'ailleurs, qu'on retrouve beaucoup à la fois dans la peinture d'artistes new-yorkais de l'époque, mais aussi dans la bande dessinée qui est extrêmement présente. Donc ce New York sombre, notamment celui du quartier de Hell's Kitchen. Et l'autre chose qui revient beaucoup aussi, c'est à la fin de sa vie, enfin la dernière œuvre qu'il réalise à la fin de sa vie en 2006, s'appelle Feestje, point d'interrogation, qui signifie petite fête en néerlandais avec un point d'interrogation, qui est une œuvre très mélancolique. Et disons qu'il y a plus la nuance d'un lendemain de fête.
D'ailleurs, c'est le tableau qui clôt l'exposition,
tout Feestje, à fait,
qui est là. Agathe.
Vous ouvrez d'ailleurs cette exposition avec une œuvre qui date de 92. Pourquoi avoir choisi deux œuvres assez de la même époque quasiment pour l'entrée et la fin de l'exposition?
Je trouve que cette œuvre donc de 92 est d'abord une des plus intéressantes de la pratique de Carel Appel. Et c'est vrai qu'une des découvertes de cette exposition, c'est de montrer sa dimension sculpturale qui est autour de beaucoup du bricolage, de l'assemblage et qui, dans les années 90, prend des dimensions environnementale et théâtrale, comme cette œuvre avec des têtes d'âne de carnaval. Oui,
oui, parce que j'allais dire, il faut peut-être qu'on la décrive un peu. Elle est étonnante, cette première œuvre, sous la phrase « L'art est une fête », donc avec des têtes de chevaux, donc qui mêlent le carnaval, le théâtre. Et il y en a d'ailleurs une autre sculpture juste avant
le tableau. Celle du début que j'évoquais, c'était Anne Chanteur, donc qui date de 92.
Mais c'est une sculpture
ou c'est une sculpture
sous forme d'installation et qui a été réalisée en fait en Italie, puisque dans les années 90, il achète la Villa Mercatale en Toscane. Il y a plusieurs ateliers un peu partout dans le monde. Et en tout cas, là-bas, il réalise une des plus belles séries de sculptures qui prend une dimension. Oui, c'est le carnaval de Venise. Et il trouve dans un marché par hasard ces têtes en papier mâché d'âne qui est utile pour le carnaval de Venise, qui va assembler dans cette œuvre qui est à la fois drôle et triste en même temps, puisqu'un âne, c'est un animal en général associé à la tristesse, pourtant très colorée, très vivante. Et aussi leur donner ce titre d'âne chanteur, c'était aussi très évocateur.
C'est celle-là dont je parlais.
Moi, ce qui m'a semblé très... Oui, mais comme tu as dit, tête de chevaux...
Ça te ressemble beaucoup.
Il y a des têtes de chevaux, par contre, dans la sculpture de la fin.
Dans la dernière sculpture de la fin, oui. Et un manège, oui. C'est un élément de manège, donc le cheval, oui, tout à fait.
Parce que c'était cette dimension-là sur laquelle je voulais vous faire rebondir, justement sur ces sculptures qui sont extrêmement intéressantes, qui ne sont pas forcément connues non plus du grand public, et sur le fait que vous avez pu choisir 4 sculptures comme don en fait, de la Fondation. Alors comment on choisit ces œuvres à travers une collection et pourquoi avoir retenu plutôt la pratique sculpturale et mettre en avant cette pratique
C'est vrai qu'Appel est connu avant tout comme peintre, et alors qu'il pratique la sculpture très très tôt, mais même avant même de faire des études d'art, il fait déjà des sculptures. C'est une pratique qu'il va avoir tout au long de sa vie en parallèle à la peinture. Et pour la donation, l'idée c'était vraiment d'avoir, on a un fonds Cobra très important dans cette donation. Et l'idée, c'était aussi d'avoir une sorte d'échantillon de l'ensemble de sa carrière. Donc aussi bien en peinture qu'en sculpture, et les 4 sculptures de la donation coupent les 4 grands moments, que ce soit Cobra, début des années 60 avec cet homme chouette en bois d'olivier.
Qui est d'ailleurs l'affiche de l'exposition.
Tout à fait.
Qui est très belle.
Qui incarne vraiment cet univers tectonien d'Appel, c'est-à-dire ça sort vraiment de la terre, son chemin entre l'homme et l'animal. Et puis ces grands assemblages très théâtraux de la fin. En plus de cette donation, on a plus de la moitié des œuvres qui viennent de différents prêts d'institutions, de collections privées, qui permettent vraiment d'avoir une vue d'ensemble de cette pratique qui est très étonnante, puisque dans sa peinture, ce qu'il va privilégier, c'est plutôt un caractère plus expressionniste, plus gestuel, alors que dans la sculpture, il pratique quasiment jamais le modelage. On a quelques exemples de céramique, mais c'est très rare. Il va préférer plutôt l'assemblage. Je crois qu'on parle parfois un peu de pratique à la limite de l'art brut, et je crois qu'elle se manifeste davantage dans la sculpture que dans la peinture.
Mais c'est vrai qu'on ne connaît pas du tout toute cette partie expressionniste, notamment le film qui montre comment il peint la jarre caïque, qui est un prêt, il me semble, du lac à Dunkerque. Du Stédélique. Ah non, pardon, c'est la série du cirque aussi dont on parlera après. Mais du coup, ce film, je trouve, c'est une belle transition sur cette partie expressionniste où on voit vraiment qu'il jette de la matière épaisse, un peu à la Pollock, si on peut dire ça comme ça, et qui trace dans la peinture son tableau. Donc ça, ce film, est-ce que vous pouvez en parler un peu plus ?
C'est un film qui m'a fascinée tout au long de l'exposition. Il est assez magnétique et d'ailleurs, je l'ai envisagé, je l'ai présenté même au sein de l'exposition comme une œuvre à part entière et pas du tout comme un documentaire, déjà par la nature même de sa réalisation, puisque c'est une immense mise en scène en grande pompe. Ce qu'on peut se douter, ce que sont souvent d'ailleurs les films d'artistes. Ce qui m'intéressait beaucoup, c'était vraiment comment se construit cette image de l'artiste. D'ailleurs, lui-même en était un peu conscient quand il parle du critique Michel Tapie. Il dit lui me voyait vraiment comme une espèce de grand viking du Nord. Il me dit c'est un peu bizarre pour moi, parce que moi qui viens d'Amsterdam, Amsterdam, pour des vrais Scandinaves, c'est un peu le Sud. Il me disait, Michel Tapie est un aristocrate du Sud, donc forcément Amsterdam, c'est le Grand Nord pour lui. Donc c'est vrai qu'il s'est fait vite cette image de l'ours polaire qui gesticule, qui se jette sur la toile. Et je crois qu'il a beaucoup plus d'humour qu'on peut l'imaginer. Je pense qu'il joue le jeu, en fait, qu'on lui demande. Et puis cette musique barbare qu'il a composée avec le jazzman Dizzy Gillespie, on rajoute encore plus à cette image-là. Enfin, ce film que comme vous dites, c'est vraiment un moment pivot dans sa carrière, puisque c'est à la fois l'apogée de l'appel expressionniste et en même temps la fin, puisqu'après ce film, il va vraiment faire complètement autre chose.
Agathe ?
Oui, oui, tout à fait. C'est vrai que on voit bien cette image d'artiste barbouilleur que vous avez évoquée aussi dans votre essai. Dans votre essai, on retrouve aussi une qualification du critique Pierre Estany sur la sculpture de Appel qui évoquerait le street art. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'il a voulu dire parce que je trouvais ça très, très étonnant et relativement tôt, en fait, de cette dénomination au regard de l'histoire de l'art, en fait, sur la sculpture d'Appel.
Je crois que ça vient de différents éléments, d'abord biographiques, parce que, comme il y avait, c'est un grand promeneur, enfin, Appel est... Donc, très tôt, il quitte les Pays-Bas, il s'installe longtemps à Paris, mais il va partager, dès la fin des années 50, sa vie entre Paris et New York, puis ensuite il y a l'Italie. Enfin, c'est quelqu'un qui migre beaucoup, parfois plusieurs pays en même temps, qui aime beaucoup la culture populaire de façon générale. Donc ça peut passer par le jazz. Lui-même collectionne des statuettes non occidentales. Bon, il y a des poupées Kachina, etc. Il s'intéresse beaucoup. Ça vient aussi peut-être d'une façon de sa culture... néerlandaise d'Amsterdam, où il parle aussi des quartiers populaires où il a grandi, cette énergie populaire, donc qui est aussi de façon globale à la mode chez les artistes, notamment dans le groupe Cobra. Et au début des années, au milieu des années 40, sa sculpture est faite de petits bouts d'objets qu'il retrouve, souvent des bois de un peu flottés, un peu moisis quasiment parfois, qu'il va ramasser dans la rue, qu'il va réabsorber. Je pense que c'est aussi ce que voulait dire Pierre Estany, c'est qu'il serait quand même des objets qu'il ramasse, qu'il réassemble. D'ailleurs, une œuvre présentée dans l'exposition, cette femme aux fleurs, donc avec des fleurs artificielles collées sur une peinture, ça peut faire penser évidemment...
On pense un peu au pop art.
Il y a le pop art. Lui, il rejette un peu l'influence du pop art, parce qu'il présente ça comme quelque chose de très américain. Mais il est plus proche des nouveaux réalistes à ce moment-là, de Martial Reiss et d'autres, qui l'intéressent davantage. Oui, il y a ce côté ramassage d'objets dans les rues, les marchés aux puces, etc., qui est très fort dans sa sculpture.
Est-ce qu'on peut parler de la série du cirque ? Donc, il y a une salle qui est consacrée donc, à ces... c'est des reliefs colorés, si je ne me trompe pas, sur la thématique du cirque, donc avec différents personnages. Il y a le clown, l'éléphant, la grenouille, le coq, le joueur de trompette qui est incroyable. Et il ressemble un peu à des jeux d'enfants. Donc c'est ça, en fait, la série qui est conservée au lac de Dunkerque.
Tout à fait.
Et qui a été prêtée spécialement, je ne sais pas combien il y a de pièces.
C'est la première fois étonnant. Qu'elle sort du lac de Dunkerque. En fait, c'est une édition qu'il a réalisée suite à une série de lithographies sur ce thème qui l'intéresse beaucoup, parce qu'il est à la fois joyeux, très populaire, et puis aussi ce mélange homme-animal qui l'intéresse beaucoup dès le départ. Hein. C'est vraiment son iconographie de prédilection, c'est des animaux et des hommes. Souvent des animaux d'ailleurs assez domestiques, proches du monde humain. Hein. C'est rarement des bêtes féroces, hein. C'est beaucoup de chats, de chiens, de petits oiseaux. Là, pour le cirque, c'est des animaux du coup encore plus domestiqués, même quoi. Pour le cas de l'éléphant. C'est aussi une pratique assez typique de son art depuis le milieu des années 60, qui va vraiment se détacher de son expressionnisme plus pâteux, disons, plus pictural, vers des formes plus froides, si je puis dire, des grands aplats. Il arrête la peinture au tube, vers des choses plus posées, plus distanciées, plus froides. Et puis aussi, ça révèle sa pratique de la sculpture dans l'espace public, puisqu'il réalise un certain nombre de monuments dans ce style-là, et très proche de cette sculpture est une... T'as un monument qui fait pour le... Enfin, pas vraiment un monument, mais disons une grande sculpture monumentale pour l'Université de Dijon.
Parce que là, c'est un mix entre sculpture finalement 3D et comme elle est plate, comme ils sont plats, d'où relief coloré, c'est assez étonnant en fait par rapport à ce qu'ils faisaient avant.
Oui, la peinture est présente, déjà c'est un très grand coloriste, une chose qui est très présente.
Et ça sent, je trouve, dans l'exposition.
Oui, toujours.
Les couleurs sont...
Même si ça évolue beaucoup, lui disait toujours que quand il était jeune, c'était le rouge qui primait, maintenant c'était d'autres couleurs. Et d'ailleurs, ce qui est très étonnant, c'est dans ses œuvres de jeunesse qui ne sont pas présentées dans l'exposition, qui couvrent déjà 60 ans de carrière, mais quand il est en formation, c'est qu'au départ, il va peindre dans le style de l'école de La Haye, donc il est vraiment à l'école de peinture locale, dans des tons plus sombres. Puis à un moment, la couleur explose, par intérêt personnel, ou est-ce que c'est la vue de Matisse aussi qui le touche?
On pense à Matisse hein, quand on lit technique de relief coloré, en fait. Moi, j'ai pensé à ces papiers colorés. Est-ce que c'est la même technique? C'est-à-dire qu'il va découper dans des, dans des blocs de couleurs, déjà, ou ces formes, ou est-ce qu'il va colorer ces blocs?
Non, c'est pour... coloré souvent après, d'ailleurs. J'ai même remarqué qu'il pouvait retravailler une... Enfin, en tout cas, la... je pense qu'il a retravaillé à deux reprises sur la grande installation avec les enchanteurs qui est au centre. Il peut repeindre par-dessus, il rassemble. Il avait une vision très peu rigide de la création, au contraire, très mouvante et plus souple.
Et ça se voit un peu dans ses techniques aussi, parce que c'est vrai que les oiseaux de nuit, il me semble que c'est de la tempéra crayon de... Je n'arrive plus à me lire, graphite sur toile et crayon de cire, oui, c'est ça. Et effectivement, et ça donne un côté assez mat qui est assez étonnant.
Qui est très rare d'ailleurs dans son œuvre, puisqu'il privilégie plutôt l'huile en général. Oui. Et on trouve un peu des tons plus mat, plus plats, avec une peinture plus fine à l'époque Cobra, oui, tout à fait. Putain, alors que dans les années 50, c'est vrai que là, c'est une épaisseur.
Proche de la sculpture, en fait. Oui. On revient sur cette trois dimensions.
Je pense aux danseurs dans le désert.
Avec une de mes œuvres préférées. Ah, elle est extraordinaire.
Moi aussi. Ah ouais, je trouve donc des tons de sable. Et puis ce côté, je crois que c'est le premier tableau dans cette partie de l'exposition dans lequel on se rend compte justement de cette pâte et dans lequel il introduit en tout cas dans l'exposition et de la matière épaisse de peinture. Et elle est très belle. Agathe,
c'est beaucoup de grands formats. Vous avez évoqué le fait que les séries de 17 sculptures cirque soient proches d'une œuvre qui a été commandée par l'Université Dijon, ou en tout cas qui a été une commande publique et qui a échoué à l'Université de Dijon. Est-ce qu'elle est visible encore, cette œuvre?
Non, elle est là, elle est encore là. Oui,
d'accord.
Oui, non, elle existe.
Et je voulais vous demander aussi sur cette rencontre du printemps, cette peinture murale qui a été faite pour l'UNESCO, je crois.
Je ne sais pas grand-chose. C'est vrai que c'est quelqu'un qui est très vite soutenu publiquement.
Oui, c'est
même
assez
si c'est forcément de manière un peu complexe, puisqu'on connaît l'histoire... de cette courtine à Amsterdam, donc qui fait ce mur qui est ensuite recouvert d'une autre fresque, hein, donc qui est quand même un geste. Bon, les critiques dans le cadre de la commande publique sont assez fréquentes, mais c'est vrai que ce geste de recouvrir était très fort, et on dit souvent que c'est aussi une des raisons pour laquelle il veut plus vivre aux Pays-Bas, qui se sent pas chez lui. Oui, il a eu un rapport complexe à son pays d'origine, parce qu'il a en même temps beaucoup soutenu, parce qu'il est très tôt acheté, montré par le Stedelijk. En même temps, enfin, avec cette œuvre-là, qui est carrément recouverte d'une autre, qui n'est pas simplement critiquée, mais il m'est complètement recouverte. Pour l'UNESCO, je ne crois pas qu'il y ait eu de... Enfin, c'était une œuvre parmi d'autres qui a eu plus de débats que ça. Mais il en a fait beaucoup d'autres, hein, dans l'espace public, un peu aux Pays-Bas. Bon, ça, forcément, on ne peut pas le montrer dans une exposition, puisque toutes ces œuvres sont en place. Le Stedelijk Museum aussi a ce petit bar, le qu'ils appellent le bar appel, avec ses œuvres, qui est un projet qui l'intéresse beaucoup lui-même dans les projets. Dans un entretien avec Ulrich Obrist, il disait qu'un des projets qu'il aurait aimé réaliser, c'est carrément une ville faite avec de la céramique colorée.
Par ailleurs, il y a très peu d'œuvres dans les collections publiques des musées français.
C'est très étonnant pour un artiste qui a passé sans doute en France, qu'il a vécu le plus longtemps, et aussi dans la période la phare de sa vie. Il est très vite soutenu par ce qu'on appelait les deux Michel, Michel Tapie et Michel Ragon, qui étaient parmi les critiques les plus intéressants de l'époque. Michel Tapie l'a introduit auprès de la célèbre galeriste Martha Jackson à New York, qui a vraiment lancé sa carrière américaine. Il va l'exposer un peu partout. D'ailleurs, c'est le seul artiste Cobra qui montre dans ses expositions d'art autre. Il est très soutenu par plusieurs galeries pendant très longtemps, jusque dans les années 80. Il est très présent, mais étonnamment très très peu dans les musées. Je ne sais pas s'il y a vraiment une raison. Peut-être que un moment où les musées auraient pu acheter sa peinture n'était plus vraiment à la mode, ou ce type de peinture était clairement plus du tout la tendance française. Est-ce que c'est dû à ça ou pas? Le Centre Pompidou conserve un ensemble très intéressant d'œuvres. Il y en a quelques autres ailleurs, mais il n'y avait pas de... Par rapport à sa présence, il n'y avait pas d'ensemble conséquent.
Et du coup, la dernière partie d'exposition, on en a déjà un peu parlé, mais donc c'est un peu plus sombre, encore une partie un peu différente, notamment quand il a donc cette série de tableaux avec des têtes décapitées. Il y a une série aussi sur le déluge, enfin pas une série d'ailleurs, un tableau sur le déluge. Ça correspond à quoi, du coup, dans son parcours artistique?
C'est ce que, en fait, je disais tout à l'heure à propos de... En fait, c'est des œuvres qu'il réalise à New York au début des années 80. Il parle beaucoup de l'énergie de cette ville. Alors, est-ce que c'est en lien... Biographiquement, je ne saurais pas dire s'il y a un lien.
On ne peut pas forcément
précis.
Faire un lien.
Voilà. Moi, je ne les trouve pas forcément sombres. Elles ont des titres effectivement dramatiques.
Elles sont drôles,
dramatiques,
je trouve.
Mais...
Elles sont à la fois dramatiques et drôles. Enfin, je pense que biographiquement, c'est plutôt une période heureuse, puisque fin des années 70, il rencontre son épouse, donc Harriet Appel, qui a fait la donation au musée. Donc, c'est plutôt une période bien, ou une vraie renaissance pour sa peinture aussi. Je crois que c'est une des périodes
les
plus
intéressantes.
Les couleurs
sont quand même moins vives. Enfin, moi, j'ai senti un...
C'est un autre travail.
C'est un travail plus dramatique dans les sujets. Alors, est-ce que ce que je dis, est-ce que ça correspond à
non, après, il ne faut pas faire une relecture.
De New York. Mais enfin, oui, clairement, on a des thématiques beaucoup plus dramatiques, mais aussi plus narratives. Ce qui est, parce que les formats changent, on se retrouve avec des formats horizontaux. Donc, du coup, qui introduisent une narration.
Oui,
en même temps, il y a un côté un peu drôle, livre pour enfants, c'est Le méchant loup dans Le petit chaperon rouge. Puis je trouve que cette scène de décapitation avec les oiseaux vous fait beaucoup penser aussi à la tapisserie de Bayeux dans son côté très narratif.
Et l'isole vraiment le sujet, je trouve, moi, dans ces grands formats. On a un motif qui va être toujours un peu désaxé, enfin, beaucoup plus, qui va ressortir beaucoup plus fortement.
Il y a toujours, mais souvent, même déjà dans les années 50, il y a beaucoup d'œuvres d'ailleurs portent le terme de tragique. On a carnaval tragique, nu tragique, tête tragique, un terme qui revient beaucoup, qui contrebalance ce côté en même temps très festif, plus vital. Mais c'est un drame sans pathos en même temps, c'est très étonnant.
On sent l'humour, comme dans Tête de pomme de terre, j'avoue, moi, c'était une de mes préférées.
C'est à la fois très dramatique, en même temps très distancié, mais je pense que c'est aussi inhérent au flux vital. Donc,
Et alors, qu'est-ce qui le fascine tant dans le... Dans le cirque et le carnaval et le théâtre, on voit finalement, on finit par l'installation dont on a déjà parlé tout à l'heure. Qu'est-ce qui l'intéresse dans ces thèmes-là? Le côté jeu, le côté du coup humour.
Je crois qu'il aime aussi ce côté, je dirais pas plus innocent, mais en tout cas, c'est vrai que les thématiques qui l'intéressent aussi, des thématiques très apolitiques finalement.
D'ailleurs, il se distance du mouvement Cobra parce que le côté politique...
Oui, tout à fait. Il s'en méfie beaucoup, contrairement à d'autres figures comme Constant ou Yorn, qui sont extrêmement politisés, qui créent d'autres mouvements encore plus politisés après. Lui-même a une grande méfiance vis-à-vis de tout ça, des grands textes théoriques. Lui-même écrit beaucoup, mais en même temps, c'est plus pour promouvoir la liberté de l'artiste, son indépendance, sa spontanéité.
Merci beaucoup, Shuraka Kazarian, d'avoir accepté notre invitation. Donc l'exposition « Carrel appelle, l'art est une fête » est à retrouver tout l'été jusqu'au 20 août au Musée d'art moderne de la ville de Paris. Alors allez voir cette petite exposition qui se révèle riche en surprises et vraiment passionnante et très belle.
Vous, ce qui vous intéresse, c'est un monstre inquiétant ou...
Non, c'est pas aussi simple, c'est pas aussi simple que ça. C'est
le monstre, vous voulez le voir dans le tableau?
Pas forcément, hein.
Vous êtes toujours sur Radio Campus Paris, sur le 93.9 FM, et vous écoutez Museum Side, votre émission de critique d'exposition. Et c'est l'heure de t'écouter, Marion, nous parler d'exposition et de littérature.
Je vous propose de plonger dans un univers étrange où vous seriez en quelque sorte un élément d'une mise en abîme. Je m'explique. Vous, être humain existant dans votre monde ici et maintenant, vous entrez dans une boîte qu'on appelle communément un musée. À l'intérieur de cette boîte géante, on vous donne l'occasion d'observer votre propre monde, passé et présent, à travers d'autres boîtes. Mais que signifie ce charabia, me direz-vous, et où cela se passe-t-il? Je vous parle de l'exposition Diorama au Palais de Tokyo, visible tout l'été jusqu'au 10 septembre. Formé du terme panorama et du préfixe dia, signifiant à travers, le diorama c'est une sorte en fait d'installation qui met en scène une situation, un personnage ou un animal réel ou fictif dans son environnement naturel. Entre le théâtre immobile et la peinture en trois dimensions, le diorama représente des univers aussi variés que peuvent l'être notre réel et notre imaginaire assemblés. La lumière en mouvement sur les éléments du diorama crée...
permet grâce aux ondes de créer du mouvement et grâce aux couleurs de changer d'atmosphère. Le diorama, c'est en fait l'ancêtre du cinéma. L'exposition rassemble des dioramas de la première heure, conçus au XIXe siècle, jusqu'à des dioramas contemporains. Entre artifices et illusions, la lumière a un rôle dramaturgique central. On passe de l'art miniature à de la création en très grand format et on découvre l'histoire du diorama et de ses origines, ainsi que ses différentes fonctions. Instrument magique réinvesti par les forains au XIXe pour faire rêver le public, outil permettant un travail naturaliste, notamment grâce à la taxidermie, ou un travail ethnographique au moyen de dioramas humains qui témoignent des conquêtes coloniales, le diorama est un support de présentation qui peut porter de multiples discours, et plus récemment, ils deviennent des œuvres satiriques critiquant la société actuelle. Et j'ai un petit coup de cœur dont j'aimerais vous parler, ce sont les dioramas d'Anselm Kiefer, qui a su donner à ces éléments tridimensionnels la délicatesse des ombres chinoises. C'est de la pure poésie photographique.
Anselm Kiefer, dont on a parlé d'ailleurs cette
Exactement.
Année. La saison de Museum Side se termine donc et la grille d'été de Radio Campus Paris va prendre bientôt le relais. Seulement, on ne voulait pas partir sans vous parler de toutes les chouettes expositions qui ont lieu tout l'été partout en France. Mais on commence d'abord par Paris pour tous les étudiants en stage tout l'été ou les saisonniers ou juste les personnes qui travaillent cet été. Il n'y a pas que les étudiants. Alors moi, j'aimerais d'abord parler de l'exposition du Grand Palais Jardin. Fragonard, Monet, Cézanne, Klimt, Picasso ou encore Matisse. Tous ces grands noms sont réunis au Grand Palais jusqu'au 24 juillet, dans une exposition hors norme donc qui retrace de la Renaissance à nos jours, 6 siècles de création autour du jardin. Donc quel thème ? Il n'y a pas un thème plus estival, je pense, que jardin. Donc peinture, sculpture, photographie, dessin, installation et des environnements sonores et olfactifs nous entraînent dans un voyage immersif et poétique. Donc c'est une promenade, selon le Grand Palais jardiniste, unique, qui fait résonner l'appel du printemps. Et toujours au Grand Palais, à voir aussi l'exposition du centenaire de Rodin, dont on avait parlé, donc qui est à voir jusqu'au 31 juillet. Donc autant faire les deux expos d'un coup quand vous allez au Grand Palais. Alors Charlotte, toi tu as repéré des belles expos au musée d'Orsay et au musée de l'Orangerie, qui dépend d'ailleurs d'Orsay aussi.
Oui, tout à fait. Donc, je vais d'abord commencer par l'Orangerie. Donc, c'est l'exposition Tokyo-Paris qui est consacrée à la collection du japonais Shojiro Ishibashi, qui était un homme d'affaires qui a vécu de 1889 à 1976. Et en fait, cet homme a fait bâtir une villa au Japon, donc en style occidental. Et il voulait la décorer. Et pour cela, il a partagé sa collection d'œuvres d'art qui provenaient d'Occident. Et il a inauguré le Bridgestone Museum à Tokyo en 1952, qui quatre ans plus tard, il crée la fondation Ishibashi, qui est en fait pour faire perdurer ses œuvres, cette collection. Donc à l'Orangerie, vous découvrirez des œuvres de toutes les époques, un panorama très large pour tous les goûts, aussi bien de la peinture japonaise du début du XXe, aussi donc pour revenir cette fois-ci. En France, des impressionnistes, post-impressionnistes, des œuvres plus modernes, abstraites, il y en a vraiment pour tous les goûts. Alors, dans ce que moi, personnellement, j'ai retenu, je pense qu'il est important de citer l'œuvre Éventail noir de Takeshi Fujishima, j'espère que je prononce bien, donc, qui est un peintre japonais connu pour avoir introduit la modernité européenne dans la peinture japonaise. En fait, et c'est un tableau où on voit une femme avec un éventail noir. Et effectivement, ça ressemble... Enfin, je ne vais pas dire que ça ressemble, mais on pourrait sentir des influences un peu comme de peintres comme Renoir ou je ne sais pas. Enfin, dans cet esprit-là du portrait, véritablement. Ce qui est bien... Enfin, ce que vous pourrez découvrir aussi, c'est des paysages de Corot, Pissarro, Renoir, Boudin, tous les grands noms tout classiques, et aussi un très beau caillebotte qui s'appelle Le jeune homme au piano, qui date de 1876 et qui a été acheté en 2011 par le petit-fils de l'homme d'affaires, et qui d'ailleurs gère la fondation depuis 2004. Donc ce tableau représente Martial, le frère de Caillebotte, qui est dans un intérieur bourgeois, qui est en train de jouer du piano, et cette peinture est très intéressante car on voit les reflets, il y a un jeu de lumière assez fin avec les reflets des murs sur le piano, des détails très, très minutieusement reproduits sur le tapis, les tentures, les rideaux. Donc cette œuvre est vraiment belle. Si vous passez à côté, arrêtez-vous quelques minutes, prenez le temps de la regarder. Après, vous trouverez également des post-impressionnistes, donc avec Cézanne, Van Gogh. Cézanne, il y a la Montagne Sainte-Victoire et le Château Noir, donc un sujet, on le sait, voilà, il a réalisé environ 80 œuvres sur ce thème. Mmh. Donc une de plus, pourquoi pas, avec un jeu de couleurs assez saisissant. Le château orangé qui tranche avec le bleu-vert du paysage, c'est vraiment très beau.
Et du coup, ce qui est intéressant aussi, c'est le dialogue entre artistes japonais, j'imagine, et artistes occidentaux. Alors, c'est étonnant de voir les deux à côté.
Tout à fait, mais c'est... Je ne sais pas si on peut tellement parler de dialogue, car les peintures consacrées aux artistes japonais occupent une salle, on en retrouve un peu à la fin aussi. Mais après, c'est vraiment, on a l'impression d'être presque à Orsay, ou même dans les autres salles de l'Orangerie, on voit tous ces tableaux de peintres qu'on connaît.
Et leur goût, c'était vraiment les impressionnistes.
C'est ça, lui, apparemment, Ishibashi avait un petit faible pour... particulièrement pour les impressionnistes.
Et c'est en plus l'art de 3 générations, si je ne me trompe pas, de la dynastie industrielle des Ishibashi, donc...
Trois collectionneurs de père en fils. Voilà, c'est très intéressant. Et donc à Orsay, Portrait de Cézanne, donc une exposition qui dure jusqu'au 24 septembre. Donc vous pourrez voir près de 200 portraits... je vous dis n'importe quoi. C'est Cézanne qui a réalisé près de 200 portraits au cours de sa carrière, dont 26 autoportraits tout de même et 29 de son épouse. Donc vous verrez des œuvres qui proviennent de collections privées, mais aussi de musées du monde entier. Donc parmi ces œuvres, les personnages représentés, donc l'oncle Dominique de Cézanne, qui était avocat, également Valier, son jardinier, qui était représenté à Aix-en-Provence au début du XXe, mais aussi son père, Louis, donc pour n'en citer que quelques-uns finalement.
Et ce qui est intéressant, c'est aussi du coup l'approche chronologique et donc de voir les séries, par exemple pour Madame Cézanne, je crois qu'il y a bien une dizaine de tableaux qui représentent sa femme, donc dont 2 qui sont dans le même fauteuil mais de points de vue différents. On voit vraiment l'évolution. Et du coup, si je me trompe pas aussi, ça va donc de 1860 à 1906. Ces portraits-là, et c'est la première exposition de cette ampleur sur ce sujet, parce que finalement, Cézanne, on le connaît plus pour ses paysages, pour ses natures mortes, et son évolution, et ses œuvres donc précurseurs du cubisme. Et du coup, c'est vraiment un autre regard sur ces portraits.
C'est une autre approche, tout à fait.
Et j'avais lu une interview du commissaire, donc Xavier Rey, qui disait que peut-être on aborde moins ces portraits parce que peut-être il est plus difficile de déterminer dans les portraits les ferments d'une certaine modernité de Cézanne, contrairement justement aux natures mortes, alors que c'est justement là que se manifeste d'abord son audace picturale. Merci Charlotte. Du coup, c'est à voir jusqu'au 24 septembre. Et ensuite, l'exposition qui est organisée en partenariat avec la National Portrait Gallery de Londres donc sera présentée là-bas du 26 octobre au 11 février. Et ensuite à Washington, à la National Gallery of Art, du 25 mars au 1er juillet. Et pour l'autre, si je ne me trompe pas, donc à l'Orangerie, elle est à voir jusqu'au 21 août. Et c'est à l'occasion donc, des travaux du musée Bridgestone. C'est ça que c'est là qu'elles sont présentées.
Voilà.
Et donc, en attendant la livraison des nouveaux bâtiments, c'est la seule étape occidentale de la présentation de ces chefs-d'œuvre au musée de l'Orangerie, donc au printemps et cet été.
Voilà.
Alors, la suite, du coup, Marie-Hélène, c'est à toi.
Oui, tout à fait. Alors, moi, je vous emmène au Centre Pompidou qui accueille une exposition anniversaire et c'est celle des 80 ans de l'artiste britannique David Hockney. Et donc, pour l'occasion, pas moins de 160 œuvres ont été réunies, des peintures, des photos, des gravures, des dessins et plein d'autres encore. Donc, on retrouve les tableaux les plus célèbres de l'artiste, comme les piscines, les doubles portraits et aussi les paysages monumentaux.
Le Biggest Splash qui date de 67.
Exactement, de 67, dans son époque où il arrivait aux États-Unis, où il a commencé à peindre cette Californie très solaire, très hédoniste. Donc cette exposition met aussi particulièrement en valeur l'intérêt de l'artiste pour les outils techniques de production ou de reproduction moderne. Dans sa carrière, il a utilisé des outils comme le fax, l'ordinateur, l'imprimante et plus récemment l'iPad et le smartphone. Donc il est très attaché à la diffusion de son art.
Donc il reste à la pointe de la technologie.
Exactement, même à 80 ans, on a un artiste toujours au fait. Donc voilà, cette rétrospective est très intéressante. On a d'abord ses œuvres de jeunesse, puis on voit toute l'évolution de son travail avec, pas l'influence, mais un peu ce que chaque mouvement a pu apporter dans son travail. Et donc, on a toutes ces... tous ces outils utilisés, aussi la façon dont il utilise la photographie pour recomposer une figure, la façon qu'il a de mettre plusieurs images ensemble pour reconstituer des tableaux, ou encore son inspiration des rouleaux de peinture chinois pour représenter le mouvement dans un seul espace. Donc je vous invite vraiment à aller visiter cet univers qui est fait de lumière, de couleurs et d'espace. Et vous avez jusqu'au 23 octobre, donc il y a quand même assez le temps. Et la seconde exposition que j'avais repérée est toujours à Paris et elle est au Jeu de Paume. Donc il s'agit d'une rétrospective de Ed van der Elsken, qui est une figure de la photographie et du cinéma documentaire néerlandais du XXe siècle. Donc c'est une rétrospective à ne pas manquer puisqu'elle concentre 40 ans d'œuvres iconiques qui donnent à voir toute la richesse de son art. On a des tirages originaux, certains en couleur, des extraits de films, des montages, des maquettes de livres et des publications. Ça témoigne vraiment de toutes les facettes de l'artiste. Et ce sont autant de pratiques qui ont permis aux photographes de raconter son époque, des hommes et des femmes dans les rues, les figures de la bohème à Paris ou encore la jeunesse anticonformiste et insoumise de l'époque. On a aussi beaucoup de voyages de Paris à Amsterdam en passant par l'Afrique et le Japon. Donc ça témoigne aussi du désir de l'artiste d'être au plus près de la vraie vie et de raconter son époque. On ressent aussi dans sa façon de travailler un peu le côté réalisateur, on voit qu'il se met pas mal en scène dans certaines photos. Donc dans cette exposition, on retrouve bien sûr son œuvre phare qui s'appelle Une histoire d'amour à Saint-Germain-des-Prés. Il s'agit d'un livre photo au caractère cinématographique qui est élaboré à partir de ses archives parisiennes des années 50. Donc à la fois autobiographique et romancé, c'est une œuvre qui propose un nouveau sujet qui est la jeunesse et la culture qui est à l'époque marquée par la violence et les addictions. Donc voilà, à travers différents lieux, différents personnages, c'est une expo qui célèbre cette vie folle qu'Ed van der Elsken n'a pas cessé de capturer et c'est à voir jusqu'au 24 septembre.
Super! Et alors on finit notre tour des expositions parisiennes avec l'exposition, donc la deuxième exposition du Musée d'Art Moderne de la Ville de Paris après Karel Appel. C'est donc de Rhin, Balthus, Giacometti, une amitié artistique. Marion.
Oui, donc au Musée d'Art Moderne jusqu'au 29 octobre. D'habitude, on retient communément des courants ou des groupes artistiques. Et là, le musée propose une complicité et un partage d'artistes qui ne dépend d'aucun manifeste, mais de l'amitié. De l'amitié, donc ce sont trois artistes qui se sont rencontrés par la fréquentation du milieu surréaliste. De Rhin, l'aîné des trois, est un peintre aux différents styles, cofondateur du fauvisme avec Henri Matisse, précurseur du cubisme et puis qui retournera ensuite dans de la peinture plus traditionnelle. Balthus, c'est un peintre figuratif qui dérange beaucoup. Il est notamment connu pour sa toile qui avait été refusée par le MoMA de New York, la leçon de guitare, je ne sais pas si vous voyez. On voit une fillette allongée sur les genoux d'une femme qui a la jupe dégagée, dont on voit son pubis, la femme a la main sur sa cuisse et la petite fille s'apprête à pincer le téton de cette femme plus âgée, donc c'est vraiment étrange. Voilà, et pour Giacometti, donc c'est un sculpteur et peintre suisse extrêmement célèbre dont on voit les sculptures un peu inquiétantes, longilignes et filiformes, qui se détachent...
L'homme qui marche.
Voilà, l'homme qui marche. et donc qui se détachent plutôt de l'objet lui-même pour s'intéresser à la vision qui en découle. Donc ces trois artistes sont des artistes majeurs du XXe qu'on met côte à côte afin de mettre à jour ce qui les lie et comprendre comment ils se nourrissent entre eux et s'inspirent, tant dans la peinture que dans de la sculpture ou en photographie. Dans l'avant-propos du catalogue, Fabrice Ergotte, directeur du Musée d'Art Moderne, veut vraiment expliquer l'importance capitale de De Rhin, artiste qu'il place comme une sorte de précurseur ou un voyant presque de son époque. Il dit « De Rhin fait partie de ces grands artistes qui voient tout avant tout le monde ». Notamment, il avait une culture encyclopédique, sa connaissance des musées et de leurs collections était très riche. Il avait une grande curiosité pour les arts extra-européens. C'est De Rhin lui-même qui a montré l'art africain à Picasso, donc vraiment il a été moteur auprès de toutes ces personnes. Et donc dans cette exposition, on met à jour donc tous les points communs entre ces trois artistes, notamment le métissage qui se crée entre les arts primitifs et la figuration, le rôle important aussi dans la création théâtrale contemporaine en tant que décorateur de chacun d'entre eux a participé à des créations de décors pour des opéras ou des théâtres et une réflexion assez noire sur la tragédie du temps qui passe. Voilà, donc ce sont autant de thèmes, et je ne les ai pas tous dit, qui permettent une belle exposition.
Je crois qu'en plus il y a 350 œuvres, donc c'est assez long.
Oui, oui, c'est assez complet.
Et c'est à l'occasion aussi de l'acquisition d'un nouveau tableau de Derain par le Musée d'Art Moderne. Oui, ça a l'air hyper intéressant.
Sachant que Derain a été très peu exposé, à contrario des deux autres, donc c'est vraiment une belle découverte.
Et en plus, il y a des prêts des plus grands musées, dont le MoMA, oui. la Tate, le Met. Enfin, il y a une liste incroyable de musées. Donc, super. Beau programme. Merci Marion. Alors, cette fois, on continue en région. Du côté des différentes régions où vous passerez vos vacances. Alors, moi, j'aimerais commencer par la Côte d'Azur. Excusez-moi, je veux pas paraître un peu snob parce que je commence par Saint-Tropez. Mais à Saint-Tropez, il n'y a pas que les bonnes glaces et puis les gros yachts. Il y a aussi le petit musée de l'Annonciade, situé dans une ancienne chapelle. Et j'y vais chaque été. Et cet été, il y a une exposition consacrée à deux artistes majeurs du XXe siècle, le peintre Georges Braque et le sculpteur Henri Laurence. Donc à partir de 1911, Henri Laurence se lie avec Georges Braque et entretient avec lui une profonde amitié. Donc l'exposition propose à travers 67 œuvres, issues de musées nationaux et des galeries, ainsi que de collections privées, un regard croisé sur le travail de deux artistes qui n'ont cessé tout au long de leur vie de dialoguer. Et je trouvais ça intéressant puisqu'en plus c'est donc un sculpteur et un peintre. Et je vous conseille aussi d'aller voir la très belle collection permanente de ce petit musée avec des petits bijoux comme Vuillard, Bonnard, Signac. Enfin bon, c'est un régal à chaque fois. Et ça se voit très vite parce que c'est quand même une petite collection, mais il y a vraiment des chefs-d'œuvre. Et pour continuer, ma deuxième exposition en région, ce serait donc dans le Jura, au Musée des Beaux-Arts de Dole. C'est une exposition un peu explosive qui s'appelle « Who's Afraid of Steve Giannakos ?». C'est donc un artiste contemporain des années 60. Et l'exposition reprend le thème, reprend le titre de la pièce d'Edouard Albee, Who's Afraid of Virginia Woolf, qui date de 62, adaptée au cinéma par Mike Nichols en 1966. Et en fait, dans les années où triomphe le pop art et l'art minimaliste, Steve Giannakos invente, depuis la fin des années 60, un univers qui est proche du pop art, qui est abreuvé de culture populaire et de bande dessinée, mais qui est un peu trash, érotique, sanglant. Et qui est trop singulier pour qu'on puisse le ranger sous l'étiquette du pop art américain. Il reprend toutes les valeurs politiquement correctes de l'Amérique puritaine et il s'amuse à les déminer, à nous faire exploser à la figure dans ses collages provocants, réjouissants, qui paraissent parfois plus punk que pop, donc selon la commissaire et directrice du musée Amélie Lavin. Donc ça a l'air d'être une expo un peu qui secoue, quoi, et qui est présentée donc, jusqu'au 24 septembre. Au Musée des Beaux-Arts de Dole et qui sera l'occasion de rassembler un ensemble d'environ 80 peintures et œuvres sur papier réalisées entre 1980 et aujourd'hui. Et pour finir rapidement, j'ai une autre expo à Monaco, pour ceux qui partent vers Monaco, au Musée océanographique de Monaco. C'est une exposition qui s'appelle Borderline de Philippe Pasqua. Et donc, c'est 12 œuvres monumentales, dont 7 réalisations inédites, qui proposent d'aborder des problématiques liées à la protection de l'environnement, à la biodiversité. Et donc, Philippe Pasqua va mettre une énorme baleine échouée, des oursons noirs sur la falaise. Toi, Agathe, tu as sélectionné une expo en province dont tu as été la conseillère scientifique.
Oui, absolument. Je vous conseille d'aller voir cette exposition qui s'appelle « Le scalp et le calumet », imaginer et représenter l'Indien en Occident du XVIe siècle à nos jours, qui aura lieu donc au Musée du Nouveau Monde et au Musée des Beaux-Arts de La Rochelle du 30 juin au 23 octobre 2017. Donc vous avez le temps d'y aller. Je vous la présente parce que, évidemment, j'ai aussi un peu contribué comme commissaire scientifique et parce qu'il me semble qu'elle est tout à fait magnifique et très intéressante.
Oui, mais tu sais, on peut faire de la pub pour... c'est fait pour ça aussi, pour tes beaux projets.
Alors, toute l'idée, ça a été de déconstruire les stéréotypes qui ont été créés du XVIe siècle au XIXe siècle sur les peuples amérindiens, qu'on a trop longtemps encore en France appelé indiens, en répétant l'erreur de Christophe Colomb. Et c'est un parcours chronothématique, en fait, qui va être déployé sur les deux musées pour bien comprendre comment ont été construits ces stéréotypes, qui sont des figures polysémiques dans lesquelles on va retrouver l'Indien sauvage, par exemple, des Lumières, l'Indien le bon sauvage, mais aussi le sauvage assoiffé de sang, qui arrive un peu plus tardivement dans les images autour des années 1860 et qui correspond aussi à la colonisation des terres du territoire américain et qui va évidemment aussi aider, en quelque sorte, si vous voulez, cette politique de colonisation. la justifier. Donc c'est tout un imaginaire européen qui est ici travaillé, qui montre bien qu'aussi les artistes américains ont participé à créer cet imaginaire européen, et elle se termine aussi avec, par exemple, des objets d'art qui montrent combien cette figure de l'Indien, en fait, va se retrouver dans tout type d'objets du quotidien, que ça soit le poste de radio ou bouchon de radiateur de voiture.
Parce que toi, Agathe, c'est ta spécialité aussi. Tu as soutenu une thèse sur... Est-ce que tu peux nous expliquer un peu?
Oui, j'ai l'Amérique. Absolument. Sur la représentation donc des peuples amérindiens au XIXe siècle. Et ce sont des représentations artistiques que j'ai étudiées, plus particulièrement celles qui étaient présentées dans les salons parisiens et expositions universelles, pour avoir une idée de ce que le visiteur pouvait voir au XIXe siècle de ces peuples. Et c'était donc évidemment des images complètement fictionnelles. On est vraiment dans le fantasme la plupart du temps. Et ce sont des Indiens, des beaux-arts essentiellement, donc à dissocier évidemment du vocable indien qu'on a malheureusement trop utilisé pour parler de ces peuples. Et vous aurez aussi l'occasion, si vous allez voir cette exposition, de voir la déconstruction de cette idée de découverte de l'Amérique, puisque l'on sait très bien que l'Amérique a toujours existé bien avant que les explorateurs européens n'y mettent un pied. Voilà.
Et toi, Marion, pour tes expos de l'été, donc tu as choisi Toulouse, aux abattoirs, Marion ?
C'est une exposition qui s'appelle Suspended Animation, accord perdu dans l'espace numérique, que vous pouvez voir jusqu'au 26 novembre, et qui pose la question de l'impact du virtuel sur nos vies et sur notre perception de notre identité, notre réel, en quoi l'animation par ordinateur finalement change notre perception, les relations entre fiction et réel, individu et avatar, avec plein d'artistes contemporains du monde entier.
Super! Marie-Hélène, tu nous parles d'une expo en Normandie et une autre dans le sud.
Oui, alors d'abord Cap sur le Havre pour la superbe exposition Clair-Obscur consacrée au célèbre duo d'artistes Pierre et Gilles. Donc le MUMA accueille une rétrospective très attendue pour fêter 40 ans d'œuvres singulières, de créations esthétiques où se mélangent photo et peinture. C'est aussi 40 ans d'extravagance et de génie pour un couple d'artistes qui a maîtrisé l'art de la retouche bien avant Photoshop. Donc la rétrospective réunit plus d'une centaine d'œuvres des années 70 à aujourd'hui, du Petit Communiste à Saint-Sébastien, en passant par la pochette d'album d'Étienne Dao ou les autoportraits. Les œuvres les plus marquantes sont au rendez-vous. On voit aussi les portraits de grandes célébrités comme Catherine Deneuve, Ariel Dombal ou encore Madonna, tout comme les modèles inconnus qui ont participé à ce monde enchanté de Pierre et Gilles, avec ses corps parfaits, idéalisés à outrance et sublimés par une mise en scène mêlant références mythologiques, religieuses et contes de fées. Il y a aussi trois installations dans la nef du musée qui ont été spécialement conçues par le duo d'artistes pour l'occasion. Donc c'est vraiment l'expo à ne pas manquer, et vous avez jusqu'au 20 août pour admirer la poésie de ces images. Et ma dernière exposition se trouve au Carré d'art à Nîmes. Elle s'intitule A Different Way to Move, et elle est consacrée à l'art minimal des années 60 à 80 à New York. Donc les arts visuels, la musique et la danse s'entremêlent pour créer cette nouvelle façon de bouger, et qui a bousculé les codes de la performance à l'époque. On a une trentaine d'artistes qui sont exposés, dont Karl André, Trisha Brown, Robert Morris, Lamonté Young ou encore Bruce Nauman, pour citer les noms les principaux noms. L'exposition se compose de 6 parties qui mettent en perspective ces différentes formes de minimalisme, et on a toute une réflexion sur la danse, le mouvement, la sculpture comme geste et comme processus. Donc cette expo donne à réfléchir à cette nouvelle idée de la danse qui passe à travers différentes phases, et qui a permis de reconsidérer cette façon de bouger, le rapport au corps et l'espace, au volume et aux formes. Donc voilà, à travers des photos, des sculptures et des vidéos, on a aussi tout cet aspect collectif de l'art minimal qui est mis en avant dans la recherche artistique. Et vous avez jusqu'au 17 septembre pour aller vous faire une idée de cette nouvelle façon de bouger.
Super, et toi Charlotte ?
Alors moi, pour la première exposition, ce sera aussi jusqu'au 17 septembre 2017. Donc elle est consacrée au sculpteur David Danger, donc curieusement. Vous la retrouverez à Angers, cette exposition.
Mais dis donc, ouais. Comment ça se fait?
C'est un hasard. Donc, David d'Angers, c'est un sculpteur angevin. Cette exposition est au Musée des Beaux-Arts. Elle est consacrée au romantisme, à tous les liens qu'entretenait David d'Angers avec le romantisme allemand. Donc, elle porte sur sa fascination pour l'Allemagne. Il y a d'ailleurs effectué deux voyages. Un en 1829, il a passé du temps avec Goethe à Weimar. Il a d'ailleurs sculpté son buste que vous pourrez retrouver dans l'exposition. Et un deuxième voyage en 1834 à Dresde, où il a rencontré le peintre Caspar David Friedrich et le sculpteur Christian Friedrich Tieck. Donc, cette exposition se découpe en 9 parties. Donc, vous retrouverez donc une partie sur ces deux voyages, également sur la réception de l'art de David d'Angers en Allemagne, sur le buste de Goethe, etc. Et il y aura aussi... elle s'élargit également au déplacement des artistes de la première moitié du 19e siècle en Europe, en Allemagne, voilà. Et si vous aimez David d'Angers, allez voir à côté du Musée des Beaux-Arts la très belle galerie consacrée justement à ce sculpteur. Et pour ma deuxième exposition, elle a lieu au château de Tours. Elle est consacrée à Willy Ronis. Vous pourrez la retrouver du 27 juin au 29 octobre 2017. Donc Willy Ronis, c'est un photographe français. Vous pourrez donc qui était très attaché à l'humanisme. En fait, c'est l'un des représentants du courant humaniste français. Vous pourrez découvrir certaines photos assez méconnues, car l'exposition a été réalisée à partir de fonds de donations qu'il a faites à l'État, si je ne me trompe pas, en 1983. Willy Ronis s'intéresse beaucoup à représenter le quotidien, des micro-récits à partir de situations qui prennent place par exemple dans la rue. Donc j'ai beaucoup aimé par exemple un petit garçon, une photo qui s'appelle Le Petit Parisien, qui date de 1952, où on voit un petit garçon qui court, une baguette de pain à la main qui est presque plus grande que lui, un grand sourire aux lèvres. Donc voilà, c'est des petits moments du quotidien, des petits moments de bonheur ou autres. Et également des photographies sur l'injustice sociale, sur la condition et la lutte ouvrière. Voilà, donc allez voir cette exposition.
Un beau panorama d'exposition pour passer un bel été.
Je comprends pas ce que je vois.
C'est l'heure de ta chronique photo, Marie-Hélène.
Aujourd'hui, je vous emmène au Centre Pompidou pour la grande rétrospective consacrée à Walker Evans, un des photographes américains les plus marquants du XXe siècle. Il est aussi le pionnier du style documentaire qui a influencé des générations d'artistes ensuite. Donc c'est une exposition très riche qui montre l'envergure de son travail, mais qui laisse aussi une large place aux collections personnelles réunies par Walker Evans. Des coupures de magazines, des publicités, des cartes postales ou des photos récupérées, qu'il s'agisse de son œuvre ou des objets qu'il collectionne, on retrouve sa passion pour le vernaculaire, c'est-à-dire pour les détails infimes du quotidien, les objets qui nous entourent. C'est une esthétique de l'ordinaire, en fait. Walker Evans donne à voir la société à travers ces choses auxquelles on ne prête pas toujours attention, mais qui en disent long sur notre époque. On retrouve donc des sujets très américains, comme les photos de baraques sur les bords de route, les devantures de magasins, sans oublier ces célèbres portraits des populations rurales réalisées pour la Farm Security Administration afin de documenter la difficulté de leur quotidien. Walker Evans fait également un portrait de la société de consommation qui achète des objets pour ensuite les délaisser. Il y a aussi ces incroyables séries de passants anonymes dans les rues, ces instants de vie capturés sans que les modèles ne le sachent. Je pense notamment à la magnifique série des Subway Portraits où il cache un appareil en fait dans son manteau pour photographier les passagers sans qu'ils le sachent. Donc à la fois sujet et méthode, le vernaculaire devient une véritable esthétique dans son travail, où l'art adopte le style du document sans jamais le devenir. Plus de 400 œuvres et documents sont à découvrir dans cette superbe rétrospective jusqu'au 14 août.
Je comprends pas ce que je vois.
Et voilà, Museum Site, c'est terminé pour la saison. Merci de nous avoir été fidèles sur Radio Campus Paris, sur le 93.9 FM et d'avoir également écouté nos podcasts après la diffusion. On a passé vraiment une très bonne année avec vous. Merci à Chouakat Kazarian. Merci à vous les filles, Marie-Hélène, Charlotte, Agathe et Marion.
Merci à toi, Florence.
Et merci à notre réalisateur Louis-Julien. Oui. On revient en octobre avec une deuxième saison riche en expositions et en débats. L'équipe restera la même, à part Marion qui nous quitte pour continuer ses projets personnels. Merci Marion.
Ce fut un plaisir.
Donc nouvelle chronique, nouvelle tête. On vous réserve la surprise à la rentrée. Bon été sur Radio Campus Paris.
Bel été.